Car si vous vivez selon la chair, la nature pécheresse, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir, mettez à mort les œuvres du corps, vous vivrez. Romains 8, 13. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse, avec ses passions et ses désirs, convoitises et affections. Galates 5, 24. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1:18. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour obtenir un renvoi à l'Écriture ou un détail dans les Écrits. Il y a 5 versets bibliques dans lesquels Jésus dit avec insistance à tous qu'ils doivent, chaque jour, se renoncer eux-mêmes, prendre leur croix et le suivre, et que quiconque ne le fait pas n'est pas digne de lui. Après nous avoir dit que nous devons nous renoncer, prendre notre croix et le suivre, Jésus lui-même est ensuite mort sur la croix pour nous montrer l'obéissance nécessaire pour le suivre, puisqu'il a suivi les commandements du Père jusqu'à mourir sur la croix. Il est mort sur la croix en exemple pour nous montrer que nous aussi devons mourir à notre vie égoïste et charnelle afin d'obtenir la vie éternelle en Dieu. La croix consiste à renoncer à notre volonté et à obéir aux commandements qu'il nous adresse en faisant sa volonté à la place. Quand nous renonçons à notre volonté et suivons la sienne, nous mettons à mort notre nature égoïste et pécheresse, la croix intérieure du renoncement à soi. Et tandis que Jésus détruit le péché en nous, il augmente son esprit en nous jusqu'à ce que nous entrions en union avec Christ. La croix est l'unique voie du salut, et la chrétienté a totalement perdu le vrai sens de la croix, et par conséquent a aussi perdu le véritable évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut. De la parole du Seigneur au-dedans, la croix est offerte à tous. Il y en a beaucoup qui refusent la croix et tout ce qui est nécessaire. Celui qui n'est pas sur la croix n'est pas digne de moi. Le but de ce site est de vous apprendre à porter votre croix. Comme les apôtres, vous aussi devez être purifiés. J'aurais tout aussi bien préféré éviter cette mort horrible. Je l'ai fait pour vous montrer l'étendue de l'obéissance requise pour votre propre salut. Ceux qui ont été crucifiés en ont fini avec le péché comme moteur, et cela doit être ressenti de l'intérieur. Il ne suffit pas de croire en Jésus, nous devons croire ce qu'il dit, puis agir en conséquence. La voix est claire, écoutez et obéissez. Pour l'entendre vous parler, vous devez écouter en silence en attendant qu'il parle. Pensez au nom de Jésus, puis écoutez, observez et attendez. Si vous constatez que votre esprit divague, pensez au nom de Jésus et revenez à l'écoute, à l'observation et à l'attente. Ne vous découragez pas si vous n'entendez rien pendant un certain temps. Même votre attente est portée à votre crédit. Que ta miséricorde, ô Éternel, soit sur nous, à la mesure de notre attente et de notre espérance en toi. Psaume 33, 22. Quand vous entendez, vous devez croire que c'est le Fils qui vous parle, croire que ce qu'il vous dit est vrai, puis obéir à tout ce qu'il commande. Faites cela de façon répétée, avec une persévérance tenace, et vous serez délivrés même du désir de péché, ce qui revient à recevoir le salut. De la parole du Seigneur au-dedans, entendre et obéir est difficile. Seuls ceux qui veulent être purs peuvent entendre. Pour l'entendre, l'homme doit décider comment il veut vivre, esclave de ses passions et de sa colère, ou libre. Se mettre au silence est une préparation. Pensez à son nom. Quand vous vous asseyez et attendez, espérez la pureté, espérez le changement. Je te montrerai les péchés secrets de ton cœur. En attendant, même si tu n'entends rien pendant un certain temps, ce sera à ton avantage, sache qu'il œuvre en profondeur en toi. Quand vous croyez ce que Jésus vous dit, puis que vous obéissez à ses commandements, vous suivez Jésus. Suivre Jésus, c'est obéir à ce que Jésus commande, c'est faire la volonté de Dieu tout en renonçant à votre volonté. Faire sa volonté avec obéissance est une croix pour votre volonté, c'est prendre la croix, oubliée et absente du christianisme aujourd'hui. Tant que vous ne prenez pas la croix, vous n'êtes pas son disciple. Tant que vous ne prenez pas la croix, vous n'êtes pas digne de lui. Le salut et la vie éternelle ne viennent qu'à ceux qui portent la croix intérieure du renoncement à soi pour crucifier leur esprit égoïste et leurs pensées charnelles. Tant que vous n'avez pas crucifié votre nature mauvaise et pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi, vous n'avez pas le salut et vous n'appartenez pas à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs, convoitises et affections. Galates 5, 24. Être crucifié ne doit pas être imaginé, présumé ou accepté par imputation. Votre esprit égoïste, l'imagination de votre cœur mauvais, et votre pensée charnelle qui est inimitié contre Dieu, doivent mourir sur la croix pour être remplacés par un nouvel esprit, une nouvelle pensée et un nouveau cœur reçu de Dieu. C'est une croix pour la volonté d'un homme que de s'asseoir en humble silence pour attendre Dieu, en écoutant et en observant, tout en luttant pour empêcher son esprit de vagabonder. C'est une croix pour la volonté d'un homme que d'obéir à ce qui lui est commandé et enseigné par le Saint-Esprit. C'est cette croix dont vous devez vous renoncer et que vous devez prendre chaque jour, pour ensuite suivre Jésus. Obéir à sa voix, c'est suivre Jésus. Jésus a dit, une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée, et s'asseoir aux pieds de Jésus et entendre sa parole, les paroles que je vous dis sont esprit, et elles donnent la vie. Luc 10, 39, 42, Jean 6, 63. Quiconque est de la vérité entend ma voix, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Jean 18, 37, 10, 27. Jésus a dit qu'il rejetterait beaucoup de gens qui se croyaient assurés d'être chrétiens, mais qui péchaient encore. Ils ne l'avaient pas fait en pratique, leur Seigneur, celui qui gouvernait leur vie dans leurs actes et leurs paroles, ils ne les connaissaient pas comme ses sujets sous son autorité de Seigneur souverain. Ils disaient « Jésus est Seigneur » de leurs lèvres, mais le tenaient éloigné de leur cœur pour qu'il soit réellement leur Seigneur et Roi. Pour en faire leur Seigneur, il doit d'abord nous purifier de notre nature pécheresse indisciplinée. Tant qu'il ne nous purifie pas, nous sommes esclaves du péché et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, péché, illégalité, iniquité, et incapables de lui être soumis comme à notre Seigneur ou Roi. Malheur aux habitants de la terre qui se présentent sans repentance. Du Seigneur 25:10-06, votre alliance avec la mort sera annulée, et votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Hébreux 28:18, j'ai proclamé qu'il devait se repentir et se tourner vers Dieu, en accomplissant des œuvres conformes à la repentance. Acte 26, 20 Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité péché et de se purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2:12-14. Il doit donc nous purifier, détruisant notre nature égoïste, indocile et pécheresse. Nous devons nous asseoir en silence afin que lui, la lumière et la parole, puissent nous enseigner à son sujet et sonder notre cœur pour nous montrer notre état, nous conduire à la repentance, puis nous purifier afin que nous soyons gouvernables par lui comme notre roi et seigneur. Nous ne le connaissons pas, et il ne nous connaît pas tant que nous n'avons pas été totalement purifiés et crucifiés. Nous, par nous-mêmes, devons aller à sa rencontre, lui parler, le guetter, l'écouter, l'accueillir et lui obéir. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apoc 3:20. Nous devons venir à lui en nous asseyant en silence tout en pensant à son nom. C'est ainsi que nous apprenons de lui, que nous sommes purifiés par lui, conduits par lui, et que nous venons à le connaître. Jésus nous a même dit que lire la Bible ne conduisait pas à venir à lui ni à la vie éternelle. Jean 5, 39-40. Pour entendre quelqu'un, il faut écouter, pour écouter, il faut cesser de parler, de lire et d'avoir l'esprit qui s'emballe. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Col 1, 27. Quiconque vient à moi et écoute mes paroles, prononcer, l'entendre parler, ne pas lire la Bible et les mettre en pratique, obéit, je vous montrerai à quoi il ressemble. Il est comme un homme qui bâtit une maison, creusa profondément et posa les fondations solidement sur le roc, et quand une inondation survint, le torrent se rua avec violence contre cette maison, mais ne put l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le roc. Luc 6, 47-8, il ne peut pas le dire plus clairement. Il a dit, « Venez à moi, écoutez mes paroles prononcées, lui parlant pas la Bible, et faites-les pratiquer, obéissez. Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles prononcées, m'obéir, mettre mes enseignements en pratique, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, 22-23. Les deux enseignements de Jésus ci-dessus constituent le message central de ce site. 1. Venez à lui, écoutez ses paroles prononcées pour vous, faites les paroles qu'il vous donne, ou obéissez à ses commandements par la repentance. 2. Si vous obéissez à ce que Jésus vous dit de faire, alors le Père vous aime, le Père et Jésus dans sa gloire viennent à vous, et ils font leur demeure en vous, et la demeure qu'ils font est le royaume des cieux. À ceux qui l'attendent avec persévérance et patience, il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut complet. Hébreux 9, 28. Alors attendez, observez, écoutez, entendez, obéissez. Attendez, observez, écoutez, entendez, obéissez. Cherchez, écoutez, obéissez. Persévérez, et Christ vous conduira par la repentance à l'union et au royaume des cieux. Lorsque nous l'attendons, que nous le guettons et que nous l'écoutons, nous demeurons en lui. Demeurer dans sa lumière vivante et sa parole vivante, c'est trouver la vie. Il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Hébreux 6, la diligence est définie comme le fait de s'appliquer continuellement et de s'efforcer d'atteindre un objectif, travailler, persévérer. Pour avoir l'assurance du salut, nous mettons à mort les mauvaises actions suscitées par le corps en recherchant chaque jour la direction de Christ et en suivant ses commandements, en nous repentant. Jésus a dit, « Tout ce que j'aime, je les reprends et je les châtie, réprouve, discipline, sois donc zélé et repens-toi. » Apoc 3:19. Car si vous vivez selon la chair, la nature pécheresse, vous mourrez certainement, mais si par l'esprit vous faites mourir, mettez à mort les œuvres du corps, vous vivrez. Rome 8:13. En suivant les commandements de Jésus que nous entendons, peu à peu, nous faisons l'expérience d'une libération progressive et miraculeuse du péché, ce qui valide nos efforts et nous motive à persévérer jusqu'à la fin. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matt 3 dit « Quand vous portez, produisez beaucoup de fruits, mon Père est honoré et glorifié, et vous montrez que vous êtes vraiment mes disciples de véritables disciples. » Jean 15 « Oui, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, le calme et une confiance assurée pour toujours, la patience y compris la longanimité, la constance et la persévérance, la bonté y compris la moralité et l'intégrité, la bienveillance, la foi, la douceur y compris la mansuétude et l'humilité et la maîtrise de soi, la domination des appétits sensuels, des passions et des désirs. » Galates 5, 22-23. Il a défini le test décisif d'un vrai croyant, d'un vrai disciple de Christ, produire du fruit, et beaucoup de fruits, et plus important encore, si vous aimez Dieu, c'est la manière d'honorer et de glorifier le Père, demeurer habité, rester en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure dans le cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Jean 15, 4. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si un homme demeure en moi et moi en lui, il porte beaucoup de fruits, amour, paix, joie, patience, douceur, bonté, etc., car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Les œuvres sans notre obéissance aimante au commandement de Dieu ne comptent pour rien. 1 Cor 13, 3 Produire du fruit, c'est avoir obéi à de très nombreux commandements de Dieu à votre égard. Demeurer est la clé de la réussite en tant que chrétien. Étudier la Bible ne fait que nous dire ce que nous devons atteindre et éviter. Pour connaître la vérité, vous devez être enseigné par Jésus lui-même, personnellement à son sujet. Ses paroles vivantes doivent demeurer en vous. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa lumière, dans sa présence, dans sa parole vivante et non lire la Bible. Demeurer signifie rester. Nous allons à lui et nous asseyons tranquillement en l'attendant, puis nous l'écoutons pour l'entendre nous parler et nous observons ce qu'il nous montre. Quand la lumière apparaît, nous passons du temps dans la lumière. Sa parole vivante nous pénètre, séparant l'esprit de l'âme, et la lumière nous purifie par le sang de Jésus. À mesure que nous nous repentons, nous sommes purifiés et recevons davantage de son esprit. À mesure que nous recevons davantage de son esprit, il demeure ou reste en nous aussi. Nous devenons des possesseurs de Christ, et pas seulement des professeurs. Cela fait partie de la croix. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, 33 « Quiconque ne porte pas sa propre croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. » Luc 14, 27 « Car vous avez été appelés à cela, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » 1 Pie 2, 21 « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs. » Galates 5, 24 de la parole du Seigneur au-dedans. Éphésiens 5, 5, 6 « C'est le vide de la terre, rendu parfaitement clair. » Car vous pouvez en être sûr, aucun impudique ou impur ou cupide n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. F5 5 6 Le Seigneur dit que le monde entier ignore cet avertissement sévère, très clair, qui est crucial pour l'avenir de chaque personne, car tous ceux qui ne sont pas purs ou qui sont immoraux ou cupides seront exclus du ciel. Jésus a dit, « Celui qui vaincra vaincre le péché et le diable héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Apoc 21, 7 et Jean a dit, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » 1 Jean 2, 14, « Nous devons donc vaincre le péché et le diable, car le Seigneur discipline celui qu'il aime, et il châtie tout fils qu'il accueille. Supportez vos épreuves avec souffrance comme une discipline, non une punition, mais une formation de Dieu pour améliorer votre vertu. Dieu vous traite comme des fils, quel est le fils que son père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans discipline, à laquelle tous les vrais fils de Dieu ont part, alors vous êtes illégitimes et non des fils. Hébreux 12, 6-8 Être châtié et discipliné par Dieu est la deuxième assurance du salut à venir. Dans 1 Pierre 1, 5-7 il dit, « Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous deviez maintenant, pour un peu de temps, être affligé par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur et la gloire lors de l'apparition de Jésus-Christ. Le salut après les afflictions et les épreuves, au dernier moment de la vie charnelle, contre un salut instantané, lequel revendiquez-vous? Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu à ce sujet, car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est à peine sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? Que ceux donc qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes entre les mains du fidèle Créateur en faisant le bien. 1 Pierre 4, 16-19. À peine sauvé signifie que cela se produit après beaucoup de souffrances, en échappant de justesse à la destruction, mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. 5. Lui-même, ceux qui ont déjà le don de l'amour doivent espérer le salut. Cela ressemble-t-il à un salut instantané? Selon Pierre, l'amour est la dernière étape du processus de croissance chrétienne. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu l'excellence, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. 2 Pierre 1, 5, 7. Paul dit que le salut vient après le don de l'amour, qui est la dernière étape de la croissance chrétienne selon Pierre. Du journal de George Fox. Vous devez avoir communion avec Christ en ses souffrances. 1 Pie 4, 12, 13. Si vous voulez régner avec lui, vous devez souffrir avec lui. 2 Tim 2, 12. Si vous voulez vivre avec lui, vous devez mourir avec lui. 2 Tim 2, 11. Et si vous mourrez avec lui, vous devez être enseveli avec lui. Rome 6, 4. Et enseveli avec lui dans le vrai baptême, vous ressuscitez aussi avec lui. Col 2, 12. F 2. 6. Il doit y avoir une entrée dans sa mort, une souffrance avec Christ, et cela est nécessaire au salut, et non pas temporairement, mais continuellement, il doit y avoir une mort quotidienne. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons autre chose à faire. On nous a menti. Plus un mensonge est répété, plus il est facile d'y croire. Il a commencé à être propagé il y a 2000 ans dans l'Église primitive. Jude a écrit en 1, 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies de faux chrétiens avec de fausses formules de salut, qui changent la grâce de notre Dieu en débauche et en licence, une permission d'immoralité. » Il est très apaisant de penser que tout ce que nous avons à faire est de croire ou d'être baptisés. Nous ne savions pas mieux, mais faites confiance à Dieu. Il ouvre une voie pour ceux qui veulent lui plaire et trouver sa volonté pour eux. Pour en savoir plus, lisez la lettre 306 de Fox. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons entendre, apprendre, être enseignés et être purifiés par Jésus personnellement, par le Saint-Esprit. Nous pouvons écouter directement les enseignements personnalisés de Christ. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. L'autre bonne nouvelle, c'est que le royaume des cieux peut être pénétré tandis que vous êtes sur la terre. Le royaume des cieux est au-dedans de vous, et la croix intérieure avec la purification jusqu'à la pureté conduit non seulement à être un fils de Dieu, mais conduit à vivre éternellement avec Christ comme notre roi, à être rempli d'amour, à avoir communion avec Christ et le Père. Et à vivre au paradis sur la terre avec une paix et une joie éternelles. Suivre Christ et porter votre croix conduit à tout ce que nous osions espérer, et bien plus encore. Tu me feras connaître le sentier de la vie, dans ta présence et la plénitude de la joie, à ta droite des délices éternels. Psa 16, 11. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. C'est pourquoi, ayant ces promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Cor 7, 1. Car depuis le commencement du monde, l'homme n'a pas entendu, n'a pas perçu par l'oreille, et l'œil n'a pas vu de Dieu, hormis toi, qui agisse en faveur de celui qui l'attend. Hébreux 64, 4. Attendre constitue la plus grande part de la croix. Après que nous avons crucifié notre nature égoïste sur la croix intérieure du renoncement à soi, alors, et alors seulement, nous sommes en Christ, puisque nous sommes relevés avec lui, ressuscités en nous pour être notre véritable Seigneur, maître de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Ce que signifie d'être en Christ est expliqué par Paul. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Cor 5, 17. Il ne s'agit pas de s'imaginer nouvelle créature, il s'agit de faire l'expérience de la mort de l'ancien et de la naissance du nouveau. Quand vous devenez une nouvelle créature, vous entrez dans une nouvelle dimension. C'est comme un homme qui a vécu toute sa vie sous terre, n'a jamais vu la lumière du jour, n'a jamais vu le soleil, les plantes, le ciel, les animaux, toutes choses sont devenues nouvelles, et il ne voit plus le monde souterrain, les choses anciennes sont passées. Et la mort de l'ancien ne vient que par la croix de Christ, en participant aux souffrances de Christ, en participant à la mort de Christ, en participant à l'ensevelissement de Christ, en participant à la résurrection de Christ, voilà ce qui est nouveau, tout le reste n'est que présomption et imagination, ou un christianisme de fiction. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, péché, illégalité ou méchanceté, Matthieu 7:21-23 Seuls ceux qui font la volonté du Père entrent dans le royaume des cieux. » Matthieu 7:21 Jésus a dit qu'il ne faisait que ce qui lui était commandé, non pas sa volonté, Jésus ne faisait que la volonté du Père. La volonté du Père, c'est l'obéissance à ses commandements. Vous devez attendre, observer, écouter, entendre, obéir, attendre, observer, écouter, entendre, obéir, chercher, écouter, obéir, pour pouvoir un jour faire la volonté du Père plutôt que la vôtre. Confesser, dire que Jésus est Seigneur ne suffit pas. Jésus a dit qu'il rejetterait beaucoup de gens qui prétendent être des chrétiens sauvés, beaucoup qu'il appelait Seigneur, qui avaient prophétisé, et même accompli des miracles en son nom. Voici donc des gens qui appellent Jésus Seigneur et font des miracles en son nom. Ils prétendent qu'il est leur Seigneur et pensent qu'ils sont en Christ. En réponse, Jésus a dit clairement, « Je ne vous ai jamais connu. » Bien qu'il l'ait appelé Seigneur, ait prophétisé, chassé des démons et accompli des miracles en son nom. Jean dit, « Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous obéissons à ses commandements. » La seule façon d'obéir à ses commandements est d'écouter sa voix, d'entendre et d'obéir, jusqu'à ce que la nature pécheresse en vous ait été crucifiée. Car vous ne pouvez pas aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme et de toute votre force, tant qu'on ne vous a pas donné un cœur et une pensée nouveau par l'amour de Dieu, reçu de lui au fil du temps, à mesure que vous demeurez dans sa parole et sa lumière avec obéissance. De la parole du Seigneur au-dedans, je ne connais que ceux qui ont été crucifiés. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui péchez encore, quiconque commet le péché pratique l'illégalité. 1 Jean 3, 4. Jésus a rejeté les gens qui se croyaient chrétiens parce qu'ils péchaient encore, ils ne lui obéissaient pas. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Luc 6, 46. Je vous le dis en vérité, quiconque pêche est esclave du péché. Jean 8, 34. Si nous sommes esclaves du péché, il ne peut pas être notre Seigneur, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Matthieu 16, 24. Luc 16, 13. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Rome 6, 16. Jésus a dit que ces soi-disant chrétiens, dotés d'une grande foi pour accomplir des miracles, seraient rejetés parce qu'ils péchaient encore, ils n'avaient pas crucifié la nature pécheresse sur la croix, ce qui est nécessaire pour appartenir à Christ Jésus. Galates 5, 24. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, 1 Jean 5, 5. Alors maintenant, demandez-vous, avez-vous triomphé du monde, car Jean vient de nous dire qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est celui qui triomphe du monde, et triompher du monde, c'est combattre le bon combat de la foi, obtenir la victoire sur le péché, et porter du fruit jusqu'à la perfection. Certaines sectes croient même, une fois sauvés, toujours sauvés, en se fondant sur l'Écriture, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne peut les ravir de la main de mon Père, Jean 10, 29. L'erreur n'est pas dans l'Écriture, mais dans le fait de croire que le salut est possible sans crucifier la nature pécheresse sur la croix, par la repentance jusqu'à la pureté. La prière du pécheur et ou le baptême d'eau ne sont pas un substitut à la croix. Porter une croix en bijou ne remplace pas le fait de prendre chaque jour votre croix du renoncement à soi, nécessaire pour être un disciple de Jésus. Suivre, c'est obéir à ce que vous l'entendez vous dire, tandis que vous attendez en humble silence, écoutez sa voix, puis obéissez à ce que vous l'entendez vous dire. Suivre, c'est obéir. Obéir, c'est renoncer à votre volonté et faire la sienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Matthieu 6, 10. Car vous pouvez en être sûr, aucun impudique, impur ou cupide, qui est idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vaines paroles. Car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur ceux qui sont désobéissants. F 5, 5. Si tous ceux qui causent le péché, ainsi que ceux qui pratiquent l'illégalité le péché, seront retirés de son royaume et jetés dans la fournaise de feu, où il y aura de grands pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 41-42. Que quiconque invoque le nom de Christ se dit chrétien se retire de l'iniquité, illégalité, péché. 2 Tim 2, 19. Pour soutenir un salut imaginaire, Romains 10, 9 dit a été déformé pour dire, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, afin de soutenir un salut imaginaire. Les guides aveugles de la chrétienté, ayant totalement mal interprété ce verset, enseigne que si vous dites à voix haute « Jésus est Seigneur » et croyez qu'il est ressuscité des morts à Jérusalem, alors vous serez sauvés. De la parole du Seigneur au-dedans, ils pensent être sauvés en faisant du bruit à propos d'être sauvés. C'est comme croire que quelques mots magiques prononcés par vous annulent totalement les nombreux avertissements de la Bible quant à l'exclusion, les exigences et les conditions qualificatives du salut. Au contraire, Rome 10:9 dit ceci correctement ainsi, « Puisque si tu confesses ceci, les paroles prononcées dans ta bouche appartiennent à Jésus, et si tu crois dans ton cœur que le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'homme croit pour la justice, et c'est de la bouche que l'homme confesse pour le salut. » Le contexte de ces versets est de croire la parole dans votre cœur et, lorsqu'il vous est ordonné de le faire, de prononcer avec obéissance la parole dans votre bouche, qui est la parole de foi prêchée par les apôtres, Rome 10:8, et c'est cela la vraie foi, entendre la parole de Dieu Christ dans votre cœur et obéir à ce que vous avez entendu, Rome 10:17. Confessez Jésus comme votre Seigneur si et quand il vous est ordonné de le confesser devant les hommes, Luc 12:8, c'est dire ce qu'on vous dit de dire astérisque car pour qu'il soit votre Seigneur, vous êtes totalement gouverné par les paroles prononcées de Jésus entendues au-dedans de votre cœur, et lorsque vous étiez mort dans vos péchés, vous avez vu Jésus ressuscité dans votre cœur pour être votre Seigneur et Roi souverain, ordonnant vos pensées, vos paroles et vos actes. Astérisque comme Paul l'a confessé, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20 pour être sauvé de l'enfer à votre mort, vous devez faire l'expérience du salut alors que vous êtes encore vivant sur la terre, ce qui signifie être libéré, lavé, purifié, délivré, purgé de tous les péchés, jusqu'au désir même de pécher. Cependant, beaucoup parmi les millions de guides aveugles du christianisme, eux-mêmes péchant encore et donc esclaves du péché, sortent ce verset complètement de son contexte et enseignent que si vous dites à voix haute « Jésus est Seigneur » et croyez qu'il est ressuscité des morts à Jérusalem, alors vous serez sauvés de l'enfer. Pourtant, plusieurs passages de l'Écriture prouvent que Jésus rejettera ce qu'il appelle Seigneur parce qu'ils ne lui ont pas obéi ou qu'il péchait encore. Pourquoi m'appelez-vous « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Luc 6:46 « Et quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous vous tiendrez dehors et frapperez à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous venez ». Luc 12:35 « Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et en ton nom chassé des démons ?» Et en ton nom fait beaucoup de miracles, et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, péché, illégalité ou méchanceté. » Matthieu 7:21-23 Ensuite les autres vierges vinrent aussi, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte pour entrer. » Mais il répondit et dit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Matthieu 25:11-12 De la parole du Seigneur au-dedans, « Je ne connais que ceux qui ont été crucifiés. Ils pensent être sauvés en faisant du bruit à propos d'être sauvés. » Il y a des millions de prédicateurs guides aveugles. Ces gens sont loin de moi, vivant dans le péché et enseignant aux autres l'inévitabilité du péché jusqu'à la mort. Ils veulent être des fils, ils reconnaissent l'Écriture, celui qui est né de Dieu ne pèche pas, mais ils continuent allègrement. Avec une foi naissante, vous n'êtes évidemment pas sauvé, sauvé signifiant être délivré de tous les péchés, mais si vous persévérez jusqu'à la fin dans une foi obéissante, en faisant tous vos efforts, vous serez sauvé. Pour confesser, c'est reconnaître que Jésus est votre Seigneur, qui commande chaque parole et chaque action. Cela n'arrive que lorsque vous obéissez à la parole Jésus dans votre cœur et dans votre bouche, qui est la parole de foi prêchée par les apôtres, Rome 10:8. Votre obéissance initiale est la preuve de votre foi en Jésus et de votre soumission à ses commandements comme au Seigneur légitime. Et si vous persévérez jusqu'à la fin dans une foi obéissante, en faisant tous vos efforts, vous serez sauvés. Crucifié, délivré de tous les péchés, lavé, purifié, raffiné, perfectionné, sanctifié, et rendu saint par la puissance de Dieu agissant puissamment en vous. La croix intérieure du renoncement à soi n'est pas facile, mais la croix est l'unique chemin pour être disciple, et seuls les disciples font l'expérience du salut. Remarquez que la confession est faite jusqu'à le salut par la bouche. Cela consiste à reconnaître que vous avez fait l'expérience du salut, vous avez vu le salut apparaître dans votre cœur, vous avez vu Christ apporter votre salut. Cela ne signifie pas que vous devenez sauvé en disant que vous êtes sauvé, ce n'est rien d'autre qu'un rituel païen destiné à créer le salut imaginaire d'une chrétienté de fantaisie. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles ?» Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le péché, l'illégalité ou la méchanceté. » Matthieu 7:21-23 « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Marc 7 6 car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la convoitise, la méchanceté, la tromperie, l'absence de retenue, le mauvais œil, le blasphème, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et le souillent. Marc 7 21-23, et il n'y entrera en aucune manière au ciel rien de souillé. Poc 21-27 faire l'expérience du salut, c'est être témoin de sa pureté, de sa sainteté, de sa perfection, du jugement, être libéré même du désir de péché, voir l'homme résiduel du péché en soi détruit par l'éclat de sa venue, voir son nom écrit dans le livre de vie, l'union avec Christ et le Père, l'entrée dans le royaume des cieux, voir la gloire de Dieu, les voir aussi apparaître dans la gloire, la communion avec les saints d'autrefois rendus parfaits, et la communion avec le Père et Christ un seul. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même, 1 Jean 5 10 12. Et celui qui a le Fils a le Père, voir le Fils et le Père régner dans leur cœur l'union. Confesser le Seigneur Jésus, c'est confesser comme Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi », Galates 2 20. Cependant, les traducteurs n'avaient aucune idée de ce qu'était le véritable évangile. Avoir Jésus ressuscité dans son cœur, qu'il soit le Seigneur qui vous gouverne, en union avec le Seigneur. Ils ne croyaient pas non plus qu'être sauvé consistait à être affranchi et sauvé même de l'attrait des péchés, puisqu'ils péchaient manifestement encore, sans jamais chercher à comprendre pourquoi leur traduction et leur doctrine étaient en total conflit avec les nombreuses exclusions, exigences et conditions qualificatives du salut énoncées dans la Bible. À croire dans ton cœur que Dieu ressuscite Jésus, c'est être connu par l'expérience de Dieu ressuscitant Jésus dans ton cœur, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous présentera avec vous en sa présence. 2 Cor 4, 14 Les Corinthiens n'avaient pas encore fait l'expérience de sa résurrection en qui vous serez circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair par la circoncision opérée par Christ, enseveli avec lui dans le baptême de mort, dans lequel aussi vous serez ressuscités avec lui par votre foi en l'action de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Col 2, 11-12 Si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Col 3, 1 Et lorsque nous étions morts dans nos péchés, il nous a rendus à la vie dans l'union et la communion avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités au passé, non au futur ensemble avec Christ, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 2, 5, 6 Les Éphésiens avaient fait l'expérience de sa résurrection, dans leur cœur, après que vous avez crucifié votre nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi. Pour être libéré de tous les péchés, votre cœur étant purifié, Jésus est ressuscité dans votre cœur tandis que vous êtes transportés dans le royaume de Dieu et entrés en union avec Christ et le Père. La chrétienté croit que tout ce qui précède est impossible parce que toute la chrétienté s'est métamorphosée en Babylone comme la Bible l'avait prédit, et les ministres de la chrétienté sont les guides aveugles dont Jésus nous a avertis. Jésus a dit que de faux prophètes viendraient en vêtements de brebis. Jean a dit que les antéchrists et les faux apôtres étaient venus et étaient sortis du milieu d'eux. Pierre a vu que les faux docteurs étaient venus. Paul et Jude ont vu que les faux apôtres étaient venus, et Paul a averti les frères nuit et jour pendant 3 ans que d'autres viendraient. Et dans l'Apocalypse, Jean a vu que le monde entier devait suivre les faux prophètes et la fausse église, ce qui se produisit peu après. La fausse église est la prostituée de Babylone de l'Apocalypse, chevauchant la bête aux nombreux noms 45 000 sectes dans la chrétienté, avec des cornes comme un agneau qui ressemble à la véritable église, mais qui parle comme un dragon des hommes parlant depuis leur esprit charnel, qui est inimitié contre Dieu, et leurs vaines opinions issues de leur mauvaise imagination au lieu de parler des paroles fournies par le Saint-Esprit, comme Jésus et les apôtres le faisaient. Avoir été trompé par la chrétienté ne sera pas accepté comme excuse pour demeurer dans votre esclavage au péché, car vous pouvez être sûr de ceci, aucun immoral sexuel, aucun impur, aucun cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles. Car c'est à cause de telles choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Éphésiens 5 5 S'y croire pour la justice, c'est être devenu juste, par l'obéissance jusqu'à la mort de l'esprit égoïste sur la croix, recevant ainsi l'esprit directeur de Christ pour vous rendre juste. Vous ne devenez pas juste en disant que Jésus est Seigneur. Comme Jésus l'a dit, « Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Luc 6 46 49 Une telle croyance insensée de prétendu chrétien est critiquée par la parole du Seigneur au-dedans, ils pensent être sauvés en faisant du bruit sur le fait d'être sauvés. On ne devient juste que lorsqu'il contrôle vos paroles et vos actes, alors, et alors seulement, pouvez-vous dire en vérité que Jésus est Seigneur de vous, par votre obéissance à ses commandements qui vous gouvernent. Alors que nous attendons dans la foi l'espérance de la justice, notre obéissance mène à la justice. Galates 5 5 Romains 6 16 Vous ne faites l'expérience du salut qu'après la mort de votre esprit égoïste de chair sur la croix intérieure du renoncement à soi et la réception d'un esprit de Christ suffisant pour contrôler chacun de vos mots et chacun de vos actes. Le salut, c'est être délivré de tout péché, avoir été purifié par la grâce de Dieu qui sépare l'homme du péché. Confessez le salut, c'est confesser que vous avez été libéré de tout péché et que vous avez été témoin de la révélation de Jésus vous apportant votre salut, qui est la vie éternelle en Dieu. Le salut, ce n'est pas dire que Jésus est Seigneur ou pointer l'Écriture, c'est quelque chose qui doit être vécu. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'après la parole du Seigneur au-dedans, la nouvelle vie est aussi radicalement différente que celle d'un homme qui a vécu sous terre toute sa vie et qui, soudain, remonte à la surface pour voir le soleil, le ciel, les plantes, les animaux, le vent, les étoiles. Même Adolf Hitler était croyant, il disait que Jésus était son Seigneur et Sauveur. Vous ne pensez tout de même pas qu'il était sauvé? Les milliers de prêtres catholiques, qui ont lentement torturé et brutalement assassiné 9 millions de personnes parce qu'elles étaient des sorcières au Moyen Âge, étaient croyants eux aussi. Tous étaient baptisés, prenaient la communion quotidiennement, priaient souvent, confessaient Jésus comme Seigneur, lisaient les Écritures, etc. Mais ils n'avaient jamais crucifié leur nature égoïste sur la croix intérieure du renoncement à soi, laquelle détruit la nature pécheresse jusqu'à l'attrait même du péché. Alors ils ont rationalisé que leur torture et meurtre de masse n'étaient pas un péché. Leur nature égoïste et bestiale participait librement à la torture et à l'exécution de tous ceux qui avaient une opinion différente en matière de religion. Ils péchaient encore. Mais leur péché était à une échelle massive. Nos péchés sont plus faciles à ignorer et à excuser, en étant indifférents à notre immoralité, nos impuretés, nos convoitises, nos fureurs, nos envies, nos jalousies, nos mensonges, etc. Vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. Romains 6:16 Jésus a dit, « Si ta main te pousse à pécher, coupe-la, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie estropiée que d'avoir deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteindra jamais. Et si ton pied te pousse à pécher, coupe-le, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteuse que d'avoir deux pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteindra jamais. Et si ton œil te pousse à pécher, arrache-le, il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. » Marc 9:43-45-47-48 Il ne veut pas que nous nous mutilions. Il illustre seulement à quel point le péché est grave. Jésus essaie désespérément de nous dire que, pour entrer dans le royaume et échapper à l'enfer, le péché n'est pas permis, point final. Mais il nous a donné la voie de la grâce pour crucifier la nature pécheresse, en ôtant de nos cœurs la source du péché, un défaut à la fois. Il savait qu'après son départ se lèveraient de faux prophètes avec de faux évangiles promettant la liberté de continuer à pécher. Les changements dans notre cœur, par la croix manquante vers la pureté, peuvent ôter le désir de la main, du pied et de l'œil de nous pousser à pécher. Réveillez-vous à la justice et ne péchez pas, car certains n'ont pas la connaissance de Dieu. Je dis cela à votre honte. 1 Cor 15:34 Faites donc mourir, mettez à mort les actes du corps qui relèvent de la vie terrestre. La fornication, l'impureté, les passions désordonnées, les mauvais désirs de la chair, et la convoitise qui est idolâtrie. Col 3:5 Jésus est venu afin de pouvoir détruire le diable et ses œuvres le péché en nous. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été révélé en nous, afin de détruire en nous les œuvres le péché du diable. 1 Jean 3:8 La repentance est nécessaire pour le salut et le royaume. Aller à Jésus, le connaître et être connu de lui, et mourir à soi par la repentance jusqu'à la pureté sur la croix intérieure manquante est la seule voie. Tant que nous n'avons pas mis à mort la nature égoïste et pécheresse, nous sommes indisciplinés et incapables d'être soumis à un seigneur ou à un roi. Nous le faisons, notre seigneur, en mettant à mort notre nature pécheresse avec l'aide de l'esprit, devenant ainsi gouvernables et soumis à lui. Car le monde voudrait un Christ qui excuse le fait de continuer à vivre dans ses passions et ses plaisirs, mais ceux qui sont attachés à la vérité voudraient un Christ qui les change pour vivre de manière agréable à Dieu, quel qu'en soit le prix. Si vous voulez sauter les Écritures, invalidant le salut instantané en disant que vous croyez ou par le baptême, prouvant que la croix est nécessaire, cliquez ici pour voir comment crucifier la nature pécheresse. Jésus a dit, « Il faut que j'annonce le royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et Paul nous dit qu'aucun immoral sexuel, impur ou cupide n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5:5 Ainsi Jésus est venu afin que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, qui arrive avec l'achèvement du salut, après avoir d'abord été affranchis du péché, purifiés et rendus moraux par la repentance, pas de salut instantané, mais un processus de purification par la croix intérieure du renoncement à soi. Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, la croix est la puissance de Dieu. 1 Cor 1, 18. Les guides aveugles de la chrétienté prétendent qu'il n'y a plus de péché parce que la loi aurait été abolie pour quiconque croit en Jésus. Ils passent commodément sous silence les nombreux avertissements du Nouveau Testament sur le péché qui vous disqualifient totalement du salut ou du ciel. Ils négligent aussi que chaque homme sera jugé sur ses œuvres et ses paroles, et plus important encore, ils oublient qu'il y a une loi écrite dans le cœur de chaque homme par laquelle tous les hommes seront jugés. La loi intérieure dans le cœur de chaque homme nous fait nous sentir mal lorsque nous mentons ou volons. Cette loi inclut les lois morales externes, ne vole pas, ne ment pas, ne convoite pas, ne tue pas, ne commets pas d'adultère ni aucune immoralité sexuelle, honore tes parents, aime ton prochain comme toi-même, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent, etc. Les lois morales de la loi intérieure dépassent les lois morales mosaïques externes, car comme Jésus l'a dit, il est venu accomplir la loi, puis il nous a dit comment elle devait être renforcée, ce que reflète la loi intérieure. On peut comprendre que cette loi intérieure renforcée est transgressée chaque fois que vous manifestez un fruit de la chair, ce qui inclut l'immoralité sexuelle, l'impureté, la convoitise, la saleté, les propos insensés, les plaisanteries, la grossièreté, l'adultère, l'absence de retenue, la sorcellerie, la haine, les disputes, les jalousies, les colères, l'ambition égoïste, les divisions, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies, la fête, les mauvaises pensées, les fornications, la méchanceté, la tromperie, le blasphème, l'orgueil, la colère. Un homme innocent de tous les fruits de la chair ci-dessus est en pleine conformité avec les exigences rigides du salut énoncées dans les Écritures. Être parfait comme le Père est parfait, Matthieu 5, 48. Être juste comme il est juste, 1 Jean 3, 7, 10. Être miséricordieux comme il est miséricordieux, Luc 6, 36. Devenir pur comme il est pur, 1 Jean 3, 3. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, 1 Pierre 1, 15. Marcher comme il a marché, 1 Jean 2, 6. Pour être affranchi de cette loi intérieure, par laquelle tous les hommes seront jugés, vous devez vous soumettre à Dieu qui condamne les péchés dans votre chair, par des commandements adaptés aux circonstances de votre vie et que vous entendez en l'attendant. Ces commandements s'établissent comme des lois supplémentaires dans votre cœur, où se trouvent toutes les lois que vous devez obéir et continuer d'obéir jusqu'à ce que vous soyez complètement crucifié, pour ensuite marcher dans l'amour et la liberté sans aucune loi. D'après la parole du Seigneur au-dedans, êtes-vous d'accord avec ceux qui, dans leur arrogance, ont déclaré que Dieu excuse le mal chez les croyants? Ce n'est pas juste, mais eux s'en moquent. J'ai dû traiter avec des gens très méchants qui ont jeté la loi derrière leur dos. Dans ma colère, je ne leur ai laissé aucun repos. Une légèreté d'esprit amène un homme à rejeter la loi. Ils ont pris la Bible et en ont fait une chose impie servant à justifier leur immersion dans le péché. C'est notre crainte qui a été rejetée. La nouvelle loi est devenue injustice. La chrétienté n'a aucune idée de ce que je suis ni de ce que je défends. Tout le monde s'attend à ce que Jésus soit son excuse. Sans obéissance, vous n'avez rien. Désolé, il n'y a pas de joke dans le camp. La retenue face au péché ne suffit pas. Le salut, c'est être libéré même du désir de vos péchés. Seul un cœur purgé du péché est acceptable à Dieu. La loi est dans le cœur de chaque homme, et elle doit être obéie, la loi suprême, elle n'a jamais été annulée. Vous devez avoir une dévotion à la loi qui est dans le cœur de chaque homme, vous devez écouter, et vous devez obéir. Vous ne pouvez pas transgresser les commandements moraux et être chrétien. Soyez sur vos gardes en tout temps, afin de vous assurer que vos paroles ne reflètent pas les fruits de la chair. Dans Jean 1, 12, il dit que tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, à cela il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le recevoir tout en croyant en son nom nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et non d'être automatiquement un enfant. Nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais ce pouvoir doit être exercé par nous, et non simplement présumé comme ayant déjà eu lieu, tout en continuant à vivre dans notre nature pécheresse. Ceux qui sont dans la chair vivant dans leur nature pécheresse ne peuvent plaire à Dieu. Rome 8, 8. Parce que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu. Rome 8, 7. Vous ne pouvez pas continuer à marcher selon les voies du monde, dans les convoitises de votre chair, accomplissant les désirs de la chair et les pensées vaines de votre esprit. Éphésiens 2, 2, 3, 4, 17. Même les démons appelaient Jésus fils du Dieu très haut, tombant à ses pieds le suppliant d'avoir pitié. Luc 8, 28, 4, 41, Marc 5, 7, 3, 11, Matthieu 8, 29. Ainsi croire que Jésus est le Fils de Dieu ou dire qu'il est le Fils de Dieu ne produit pas le salut. Jacques a dit « Tu dis que tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Jacques 2, 19. Remarquez que Jésus, dans Jean 3, 16, ne dit pas « Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu », il dit « Si vous croyez en lui ou simplement si vous le croyez ». Il y a une grande différence, un l'assentiment mental au fait que Jésus est le Fils, vs. de croire ce qu'il commande et conseille suffisamment pour lui obéir. Il nous commande de rechercher comme priorité suprême dans la vie le royaume de Dieu et sa justice, d'être parfait, de tendre l'autre joue, de venir à lui, de l'écouter et de lui obéir, de te renier toi-même et de porter ta croix chaque jour, et de te repentir ou de périr. Les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils ne lui obéissent pas par amour, ils lui désobéissent. La Bible amplifiée nous donne une compréhension supplémentaire. Quiconque croit en se confiant s'attache à s'appuie sur lui. Obéis-tu au commandement de Jésus, ou es-tu comme les démons, qui croient qu'il est le Fils de Dieu ressuscité des morts, mais qui désobéissent à ses commandements? La Bible nous montre même des exemples où croire que Jésus est Seigneur et être baptisé ne conduit pas au salut, ni même à l'assurance du salut. Simon le magicien crut et fut baptisé. Il tenta d'acheter le pouvoir d'imposer les mains. Actes 8, 13, 18. Pierre lui dit, « Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie Dieu afin que, si possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel d'amertume et dans les liens de l'iniquité. » Actes 8, 22, 23. N'est-il pas évident que Simon n'avait pas été sauvé par la foi et le baptême? Ananias et sa femme Saphira étaient membres de l'Église à Jérusalem. Une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu pour le déposer aux pieds des apôtres, et l'on distribuait ensuite à chacun selon ses besoins. Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, faisant comme s'il donnait la totalité. Ananias et Saphira furent immédiatement frappés de mort par le Saint-Esprit. En réalité, ils mentaient à Dieu. Leur mort fut un exemple qui inspira une grande crainte à toute l'Église. Actes 4, 33, 35, 5, 1, 11. Or, peu soutiendraient que ces croyants sur lesquels reposait une grande grâce avaient été sauvés s'ils furent frappés de mort par le Saint-Esprit pour avoir menti. Et bien que les Corinthiens aient mangé le pain et bu le vin, et aient été baptisés dans l'eau, Paul leur dit qu'ils étaient des réprouvés rejetés, perdus au péché si Christ n'était pas en eux, et leur ordonna de s'examiner eux-mêmes. Et décrivant l'Église primitive à Jérusalem, et tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et ils persévéraient chaque jour d'un commun accord dans le temple, et rompaient le pain de maison en maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Actes 2, 44-47. Cela montre clairement que le salut n'est pas instantané au moment de croire, d'être baptisé et de rejoindre l'Église, non, ils étaient décrits comme étant sauvés, c'est-à-dire dans le processus de repentance et de mort de leur esprit égoïste sur la croix. Croire n'est pas le salut, comme Paul le souligne 11 fois en s'adressant aux croyants dans les Églises, maintenant notre salut est plus proche que lorsque nous avons cru pour la première fois. Rome 13, 11 Continuez à travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. Phil 2, 12 Car nous sommes sauvés en espérance, mais l'espérance qu'on voit n'est pas l'espérance. Car qui espère ce qu'il voit déjà? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, alors nous l'attendons le salut avec une patience persévérante. Rome 8, 24-25 Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. 1 5 8 Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, la croix est la puissance de Dieu. 1 Cor 1 18 Pendant la croix intérieure du renoncement à soi, vous verrez le péché disparaître lentement de votre vie jusqu'à ce que vous soyez libre du péché. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. 2 Cor 7 dit N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. F 4:30, Paul s'adresse à des croyants dans l'Église qui n'ont pas encore été rachetés, ce qui est le salut, car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu, parmi ceux qui sont en train d'être sauvés. 2 Cor 2:15 Nous sommes devenus participants de Christ, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3:14 Car vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu, afin qu'après cela vous receviez la promesse. Hébreux 10:36 Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour parvenir à la pleine assurance de l'espérance jusqu'à la fin. Afin que vous ne soyez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Hébreux 6:11-12 Et Pierre fait écho au même message. Le salut n'est pas seulement croire ou avoir la foi, le salut est plutôt l'aboutissement du parcours obéissant de la foi et requiert une croissance. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez de joie, quoique vous deviez maintenant, s'il le faut, être attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, et sans le voir maintenant, mais en croyant en lui, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et pleine de gloire, obtenant le but de votre foi, le salut de vos âmes. 1 Pierre 1, 5-9 Désirez, comme des nouveau-nés, le lait spirituel pur, afin que vous croissiez pour le salut. 1 Pierre 2, 2. Alors, quand la foi aboutit-elle au salut, Jésus nous l'a dit lui-même, « Et voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en dépend de ce qu'on fit en et obéit à lui, est la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour, Jean 6, 40. Ainsi, votre foi doit vous conduire à voir Jésus le visage de Dieu. Lorsque votre foi vous amène à attendre Dieu avec persévérance, dans un silence humble, pour l'entendre et lui obéir, ces paroles, que vous l'entendez vous dire, communiquent la vie de Dieu, jusqu'à ce qu'enfin vous soyez purs et que vous voyez le visage de Dieu dans votre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matt 5, 8. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui Jésus est pur. 1 Jean 3, 3. Le salut, la délivrance du péché, se produit quand vous faites l'expérience de la grâce de Dieu, Christ vous l'apportant, quand Christ détruit en vous l'esprit égoïste par l'esprit de sa bouche et par l'éclat de sa venue, quand il écrase la tête de Satan sous vos pieds. D'après la parole du Seigneur au-dedans, le salut se produit quand vous ne faites qu'un avec Christ et Dieu. Savoir que vous êtes né de nouveau, c'est voir votre salut apparaître dans votre cœur. Si vous êtes attentif et obéissez, cela aboutit à l'union avec Dieu. Il s'unit à notre nature purifiée. Saint est notre Seigneur Dieu, saint est son nom, nous devons devenir comme lui pour nous fondre avec lui. Une fois que vous êtes dans l'union, c'est permanent. Dire que Jésus est Seigneur ne nous sauve pas. Être baptisé d'eau ne nous sauve pas. Un contact avec l'Esprit, seulement l'appel de Dieu, vanté comme le baptême du Saint-Esprit, ne nous sauve pas non plus. Cela ne garantit pas que nous vivrons avec Dieu pour toujours, ni ne fait de nous un enfant de Dieu. Le salut n'est pas instantané. Le salut est un processus. Pour renaître, nous devons d'abord mourir. Il faut perdre sa vie pour la sauver. Le véritable baptême du Saint-Esprit, le seul nécessaire, circoncit le cœur en plongeant le péché et l'iniquité au fond, et en dépouillant le corps de mort et les péchés de la chair afin que nous soyons sans péché, un baptême dans la mort de Christ. Note au début de l'Église primitive, il, Pierre en particulier, maintenait la circoncision juive, les lois alimentaires et la coutume juive des rites de purification par l'eau, connus des chrétiens comme le baptême d'eau de Jean. Pierre imposa même ces pratiques aux païens, jusqu'à ce que le Saint-Esprit le corrige sur la nourriture, Paul le corrige, et le Concile des apôtres publie une directive différente pour les païens. Puisque Christ et Jean-Baptiste parlaient tous deux d'un meilleur baptême, ce baptême fut plus tard éliminé de la pratique chrétienne et la foi maintint un seul baptême, le baptême de feu ou du Saint-Esprit. Jean dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matt 3, 11 Jésus dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Actes 1, 5, Paul dit, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Éphésiens 4, 4, 5, il est clair que, tout comme il n'y a pas plusieurs seigneurs, il n'y a pas plusieurs baptêmes. Les Corinthiens se vantaient de celui qui les avait baptisés, notamment Paul ou Apollo, et Apollo ne connaissait que le baptême d'eau, si bien que le baptême d'eau était le sujet des versets suivants. Paul dit encore, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, si ce n'est Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que je vous ai baptisé en mon nom. J'ai aussi baptisé la famille de Stéphana, du reste je ne sais pas si j'ai baptisé quelque autre personne, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. » 1 Cor 1, 12, 14, 17. Ainsi, Paul n'était pas heureux d'avoir même baptisé d'eau la poignée de personnes qu'il avait baptisées. Comment la croix de Christ pourrait-elle devenir sans effet? Si les gens pensent à tort que le baptême d'eau les sauve, alors porter la croix est considéré comme inutile. C'est ce qui est arrivé dans le christianisme, dont les milliards considèrent la nécessité de porter la croix comme une folie et sans valeur. Ainsi le christianisme périt, et le christianisme, étant aussi aveugle au véritable évangile, périt sur deux points. Il est clair que l'unique baptême nécessaire est le feu du Saint-Esprit, qui circoncit le cœur en plongeant le péché et l'iniquité au fond, et dépouille le corps de mort et les péchés de la chair afin que nous soyons sans péché, baptisés en Jésus-Christ. En sa mort, enseveli avec lui par le baptême en la mort, afin qu'il marche en nouveauté de vie. Bien qu'il convienne de l'éviter comme rituel inutile, le baptême d'eau n'est pas nuisible, à moins que vous ne pensiez qu'il vous rend d'une certaine manière juste, ce qui vous empêche de rechercher la justice, laquelle est le commandement de priorité suprême de Christ, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. D'après la parole du Seigneur au-dedans, évite le baptême du monde. Le sens de l'éviter est s'abstenir de faire quelque chose, surtout pour des raisons morales. La croix manquante s'asseoir dans un silence humble tout en pensant à son nom, voilà comment nous apprenons de lui, sommes purifiés par lui, sommes conduits par lui et en venons à le connaître. S'asseoir, penser au nom de Jésus et attendre paisiblement que le Seigneur nous parle, par sa parole vivante, ou qu'il nous révèle, par sa lumière, ce qui est dans notre cœur, ce n'est pas ce que notre chair veut faire. Au lieu de s'asseoir tranquillement chaque jour en attendant le Seigneur, notre chair veut dormir, ou s'inquiéter, ou planifier notre journée, ou penser à quelque chose, ou faire quelque chose, n'importe quoi. Notre esprit courra à travers de nombreux sujets dans un effort désespéré pour se sauver, celui qui perd sa vie la trouve. Voici la croix manquante. Chercher le royaume de Dieu, comme votre première priorité, est un acte de repentance, une croix pour votre volonté égoïste se détourner du mal. Comme vous le comprenez, est un acte de repentance, une croix pour votre volonté égoïste. Vous ne voulez pas vous asseoir tranquillement chaque jour pour écouter et veiller, mais vous vous repentez et vous le faites, une croix pour votre volonté égoïste. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Un pogue.
Croix 20, vous ne voulez pas obéir à ces commandements que vous entendez, mais si vous vous repentez, c'est une croix pour votre volonté égoïste, vous ne voulez pas pardonner les injustices commises contre vous. Mais vous vous repentez et pardonnez, une croix pour votre moi coléreux, vous ne voulez pas admettre et regretter ce que la lumière montre être votre état. Mais si vous vous repentez, c'est une croix pour votre volonté, c'est l'endroit où vous êtes changé, où votre paix augmente dans la lumière, vous ne voulez pas donner autre de votre surplus, mais si vous vous...
Luc 9, 23.
Voici comment mortifier, mettre à mort les actes du corps qui relèvent de la vie terrestre, la fornication, l'impureté, les passions déréglées, les mauvais désirs de la chair et la convoitise qui est idolâtrie. Col 3, 5. Or les œuvres de la chair sont manifestes. L'immoralité sexuelle y compris l'adultère et la fornication, l'impureté, la convoitise, l'idolâtrie y compris la cupidité, la sorcellerie, la haine, les disputes, la jalousie, la colère, l'ambition, les divisions, les factions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, la fête, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, le calme et la confiance assurée pour toujours, la patience y compris la longanimité, la fermeté et la persévérance, la bonté y compris la moralité et l'intégrité, la bienveillance, la foi, la douceur y compris la mansuétude et l'humilité, et la maîtrise de soi, domination des appétits sensuels, des passions et des désirs. Contre ces choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs convoitises et affections. Galates 5, 19, 24. Voilà comment produire du fruit, crucifier la nature pécheresse, devenir un véritable chrétien. Quand vous portez, produisez ou faites paraître beaucoup de fruits, mon Père est honoré et glorifié, et vous montrez que vous êtes vraiment mes disciples, vrais disciples. Jean 15, 8. Jésus nous a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9, 23. Remarquez. Il a dit cela avant même d'être allé lui-même à la croix. Il est donc allé à la croix comme un exemple pour nous, un exemple de l'obéissance nécessaire pour mettre à mort notre esprit égoïste afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu, afin que le monde sache que j'aime le Père, je fais seulement exactement ce que le Père m'a ordonné de faire. Jean 14, 31. Voilà à quel point la croix est importante pour nous. Il a été prêt à mourir d'une mort horrible comme exemple de l'obéissance qui nous est requise. Jésus a dit, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas en notera même ce qu'il croit avoir. » Luc 8, 18. « Tenez-vous en silence et sachez que je suis Dieu. » Psaume 46, 10. « Que toute chair se taise devant l'Éternel. » Zacharie 2, 13. Pour mieux comprendre la nécessité d'apprendre dans le silence, voyez l'écrit remarquable de George Fox sur Why Silence, également dans la barre latérale. Voyez aussi How to Benefit from the Changing Power of God Be Waiting on the Lord pour plus d'informations, également dans la barre latérale. La croix, se renier soi-même, doit être portée chaque jour pour réussir. La croix qui est pour vous la puissance de Dieu, et la croix qui est folie pour les autres. La croix est la puissance de Dieu. La foi dans le véritable évangile est la puissance de Dieu. La foi dans le véritable évangile, et la croix pour réaliser la promesse, libère la puissance de Dieu pour vous purifier et vous rendre un avec lui. Il vous changera progressivement, mais vous changerez. Peu à peu, vous deviendrez moins en colère, moins asservi aux choses du monde, plus posé, moins émotif, plus aimant, plus patient, plus bienveillant, plus doux et plus heureux. Vous serez ravi d'entendre sa voix, vous serez ravi qu'il vous enseigne au sujet de lui-même, vous entendrez sa voix douce et bienveillante vous encourager, et tandis qu'il vous montrera l'état de votre cœur, vous serez transformé. Nous rendons témoignage à cette puissance qui change. Voyez « How to benefit from the changing power of God » pour plus de détails. Voici ce que George Fox dit à propos de la croix manquante dans sa lettre N262. La véritable espérance, la véritable croix, la véritable foi, le véritable culte, la véritable religion, la véritable voix, la véritable image et la véritable communion ont été perdues depuis le temps des apôtres, parmi ceux qu'on appelle chrétiens, qui sont hors de la vie. et ceux qui ont perdu la croix du Christ, qui est la puissance de Dieu, en laquelle se trouve la véritable communion, ont dressé une croix de bois ou de pierre, donc de fausses croix, et de faux chrétiens. Ceux qui ont perdu la véritable espérance, qui purifie, comme lui est pur, ont établi un purgatoire pour les purifier quand ils sont morts. Et d'autres exaltent un corps de péché et de mort de ce côté-ci de la tombe, avec l'espérance de l'hypocrite, et ils ont perdu le véritable ministère, et en ont établi un faux, pour prêcher l'imperfection. Or les hommes étaient imparfaits dans le vieil Adam avant la venue du Christ, car la loi n'a rien rendu parfait, mais le véritable ministre, Christ en vous, l'espérance de la gloire, rend parfait tant au temps des apôtres qu'au Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire, dit l'apôtre, que nous prêchons, avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait en Christ Jésus. Ainsi la perfection est en Christ Jésus, l'imperfection est dans le vieil Adam. Ainsi c'est là la véritable espérance qui purifie, et quiconque la possède se purifie lui-même, comme lui est pur. Et quiconque ne possède pas cette espérance plaide pour l'impureté et l'imperfection, et pour un corps de péché et un corps de mort jusqu'à la tombe, et pour un purgatoire après la mort. Ceux-là ont une profession des Écritures, comme les pharisiens, et l'espérance de l'hypocrite qui périra. Et la véritable foi a été perdue depuis le temps des apôtres, la véritable foi qui purifie le cœur, qui est la foi des élus de Dieu, laquelle foi donne la victoire sur ce qui sépare de Dieu, par laquelle foi vous tous plaisez à Dieu, laquelle foi est le don de Dieu, et Christ en est l'auteur, que chacun regarde à lui pour l'obtenir pour son accomplissement, lui qui en est l'auteur. Dans cette foi, tous les saints sont unis dans ce qui donne la victoire sur le diable, car par la foi, qui est le bouclier, ils lui résistent et éteignent ses flèches enflammées, et ils résistent à celui qui voudrait les souiller et les rendre imparfaits, et les entraîner dans des choses qui déplairaient à Dieu. Et tous ceux qui sont hors de cette foi crient, pas de victoire tant que nous sommes sur la terre, mais ils doivent avoir un corps de péché jusqu'à la tombe, et un purgatoire pour les purifier, tous ceux-là sont dans l'erreur concernant la foi, ils ont fait naufrage quant à la foi et à une bonne conscience, ils sont tous dans une foi morte, et ne peuvent donc pas prêcher dans la foi vraie et vivante des élus de Dieu. Ils sont tous hors de l'unité, car l'unité est dans la foi, qui donne la victoire sur le diable. Ils sont hors de la vie juste, dans laquelle le juste vit par sa foi. La vie que je vis maintenant, je la vis par la foi au Fils de Dieu, et ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi, dit l'apôtre. Et tous ceux qui marchent, dans la foi des élus de Dieu, qui est la victoire sur le diable, marchent dans l'unité au-dessus de l'inimitié. Et le véritable culte a été perdu depuis le temps des apôtres. Oui, le culte que Christ a établi il y a plus de 1600 ans, en esprit et en vérité, oui, dans l'esprit de Dieu, qui était avant que l'esprit du diable existât, lui qui est hors de la vérité, et dans la vérité dont le diable est dehors. Dans cet esprit et dans cette vérité Dieu, qui est esprit, et le Dieu de vérité, cherche des hommes qui l'adorent en vérité. Ainsi tout homme et toute femme doit venir à la vérité dans les parties intérieures, et à l'esprit de Dieu au-dedans d'eux-mêmes, s'ils veulent être des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité, où le diable n'a pas demeuré. Et c'est là le culte stable et parfait, dans lequel il y a unité dans la vérité, car l'inimitié en est dehors et ne peut y entrer. Gloire à Dieu pour toujours, et les hommes qui se sont égarés du culte que Christ a établi il y a plus de 1600 ans, se sont éloignés de la vérité au-dedans, et de l'Esprit de Dieu. Et ils ont adoré des images par cet esprit impur, ils ont adoré l'œuvre de leurs propres mains, ils ont adoré le dragon, ils ont adoré la bête, ils ont adoré la créature, ils ont adoré des anges, se sont persécutés les uns les autres au sujet de leur culte, et ils ont persécuté les vrais adorateurs. Ceux-là sont dans un zèle aveugle, eux qui ont haï la lumière. Ainsi personne ne peut adorer Dieu, qui est esprit, à moins de venir à la vérité dans ses parties intérieures, et à l'esprit de Dieu en soi, par lequel esprit il faut connaître Dieu comme esprit, et l'adorer en esprit. Ils doivent connaître Dieu comme le Dieu de vérité, et alors l'adorer en vérité, vérité dont le diable est dehors, dans l'inimitié un adversaire. Et c'est là le culte stable, parfait, infaillible, que Christ Jésus, l'homme parfait et infaillible, a établi il y a plus de 1600 ans. Et la véritable voie a été perdue depuis le temps des apôtres, celle que Christ a établie il y a plus de 1600 ans, lui qui a dit « Je suis le chemin vers le Père, et nul ne vient au Père que par moi ». Ainsi nul ne sort du vieil Adam, sinon par Christ le second Adam. Nul ne sort des ténèbres, sinon par Christ la lumière, nul ne sort de la mort, et de dessous le prince de la mort de sa puissance, sinon par Christ la vie. Ainsi il est le chemin vers Dieu. Nul ne sort de l'injustice, sinon par Christ, la justice, nul ne sort de la sagesse d'en bas, sinon par Christ qui est la sagesse de Dieu qui vient d'en haut. Et nul ne sort de l'erreur et du mal, sinon par Christ, la vérité. Ainsi il est la porte et le chemin vers Dieu Tout-Puissant. Et nul ne vient au Père sinon par lui. Nul ne sort de la captivité ou de la prison, sinon par Christ l'homme céleste. Et ainsi, s'étant égarés loin de Christ, le chemin, ils ont établi tant de chemins dans la chrétienté parmi eux-mêmes, et ils se crêlent au sujet de leur chemin les uns avec les autres, l'inimitié étant parmi eux. Or Christ est le chemin, sur lequel l'impur ne peut marcher, lui qui était avant que le chemin impur existât, car il est au-dessus de tous les impurs, et il est au-dessus de tous les chemins pervers et tortueux, et des chemins montagneux, et des chemins mauvais et injustes, et impies, il est au-dessus de tous. Et nul ne vient à ce chemin nouveau et vivant, Christ Jésus, sinon ceux qui viennent à la grâce de Dieu dans leur cœur, à l'Esprit de Dieu dans leur cœur. Ainsi il est le chemin nouveau et vivant, lui qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, établi d'éternité en éternité. Et tous ceux qui sont hors de ce chemin nouveau et vivant, quoiqu'il ait toutes les Écritures, du commencement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pourtant ils sont morts, et sous la puissance de la mort, que Christ, le chemin, détruit par la mort, oui, la puissance de la mort, le diable, et il était avant la mort et avant que sa puissance existât. Voici le chemin nouveau et vivant. John Richardson, un des premiers ministres Quakers visitant les États-Unis, fut inspiré à dire lors d'une réunion de croyants protestants à Nantucket, qui n'étaient pas convaincus de la foi Quake, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'homme naturel et non régénéré ne peut même pas voir le royaume céleste et spirituel du Christ, qui consiste non seulement en puissance, mais aussi en justice, joie et paix dans le Saint-Esprit, et naître de nouveau ne se fait pas imperceptiblement, pas plus que la naissance naturelle ne peut avoir lieu sans douleur, et prétendre être en Christ sans être une nouvelle créature est absurde, et prétendre être une nouvelle créature et pourtant être incapable de rendre compte de la manière dont cela s'est accompli est déraisonnable, car ceux qui sont crucifiés avec Christ sont crucifiés à leur péché, de sorte que, comme il est mort pour le péché, nous devons mourir au péché. Dans cet état, nous ne vivons pas selon la chair, bien que nous vivions, comme l'apôtre l'a dit, dans la chair, mais la vie que ceux-ci vivent est par la foi au Fils de Dieu. Et prétendre avoir tout cela, et bien davantage encore accompli en nous, et n'en rien savoir, est inexplicable. La présomption, au lieu de la réalité expérimentale, est un christianisme de fantaisie. Cela toucha tellement ses auditeurs que la dirigeante du groupe, Mary Starbuck, se leva et dit en larmes « Tout ce que nous avons jamais construit, et tout ce que nous avons jamais fait, est renversé aujourd'hui, et ceci est la vérité éternelle. Certains disent que nous prenons le salut par les œuvres, sous-entendant que l'ordre de Jésus de se renier soi-même et de prendre sa croix chaque jour, ce sont des œuvres. Certains vont même jusqu'à dire que la repentance est des œuvres, alors même que Jésus a dit « Repentez-vous, périssez ». Ils veulent soutenir que puisque la grâce est gratuite, il n'y a rien à faire. Ils ont raison, la grâce est gratuite, mais la grâce n'est pas le salut, la grâce apporte le salut. Jacques a dit, la foi sans les œuvres est morte. Paul a encore dit, continuez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Dans Tite 2, 14, Paul a dit que la grâce produit un peuple zélé pour les bonnes œuvres. L'action de la grâce, qui nous enseigne comment vivre, est un processus. La grâce n'est pas instantanée, le processus produit la pureté et le fruit de l'amour. La définition habituelle de la grâce salut instantanée enseignée dans les sectes déficitaires et la définition de la grâce selon l'apôtre Paul sont radicalement différentes. La grâce n'est pas le salut. La grâce apporte le salut. La grâce est gratuite, le salut ne l'est pas. Le salut exige tout, même votre vie charnelle. Car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, 11, 12. De même donc, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, 33. Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 10, 39. Et quiconque ne porte pas sa propre croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Oh, la vraie grâce n'est pas le salut, mais elle apporte le salut tel qu'il le définit dans sa lettre à Tite, comme suit « Car la grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent monde, tandis que nous recevons l'accomplissement bienheureux de notre espérance, la glorieuse apparition du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. » Tite 2, 11, 14. « Quiconque commet le péché pratique l'illégalité, car le péché est l'illégalité. » 1 Jean 3, 4. Celui qui pêche encore pourrait à tort soutenir qu'il est racheté de toute œuvre illégale, mais non que la grâce l'a purifié. Ainsi la grâce et le salut ne sont pas la même chose, la grâce ne fait que conduire au salut, atteint par les actions essentielles de la repentance. La repentance, c'est la douleur au sujet de votre état, le changement de votre pensée pour être différent, puis le fait de vous conduire différemment. La grâce apporte le salut en nous enseignant à quoi renoncer, nous conduisant à nous repentir. Par la grâce, notre péché nous est montré. Nous nous repentons en renonçant à l'impiété et aux convoitises pour vivre sobrement, justement et pieusement dans ce monde présent. Nous recherchons la justice pour lui plaire et dans l'attente de la glorieuse apparition de Dieu et de Jésus, le royaume des cieux. Ainsi, par la grâce, nous voyons un problème dans notre cœur. Nous nous repentons. Puis, par la grâce, nous recevons la force d'être différents, le nettoyage de notre cœur. Par ce processus, nous sommes rachetés de toute iniquité et purifiés par Jésus pour devenir des travailleurs enthousiastes du bien. La grâce est imméritée et gratuite, le salut n'est pas gratuit. Le prix du salut est le sacrifice de soi, la mort de votre nature pécheresse, et notre mort n'est pas la preuve que nous sommes dignes des dons de Dieu, non, seulement la honte d'être si indignes. Voyez truc grâce versus false grâce pour plus. C'est par la grâce, et par la grâce seule, au moyen de notre foi en Jésus-Christ que nous obtenons le salut, mais le salut signifie être purifié, mourir à la chair et vivre pour Christ, non pas en faisant semblant, mais en réalité. Quand vous allez à la croix dans la lumière, et qu'il vous montre ce qu'il y a dans votre cœur, alors vous saurez ce qu'est réellement la grâce, que seul Dieu peut vous changer, vous êtes sans secours dans votre état déplorable, seule la grâce de Dieu peut vous délivrer de votre condition. Vous devez partager sa mort et partager sa résurrection. Fox précise qu'il faut inclure la souffrance, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. La croix est le commencement. La croix n'est pas tentée d'être sauvée par les seules œuvres, elle n'est que la preuve de votre foi par l'obéissance. Et ceux qui s'opposent à la croix vont à la destruction, car leur Dieu, c'est leur ventre, leur convoitise et leurs affections pour le monde, et leur gloire est dans leur honte, eux qui s'attachent aux choses de la terre, l'amour du monde. Réveille-toi et sois vigilant, et affermis ce qui reste, ce qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. Apoc 3:2-3. Jésus attend des œuvres parfaites, les œuvres sont la preuve de votre foi. Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, Éphésiens 2:10. Quelles œuvres? Pas les œuvres de la loi, qui sont l'offrande de céréales, l'offrande d'agneau, l'offrande de taureau, les ablutions, le fait de ne pas manger certains aliments, la circoncision, la dîme, les sabbats, la célébration de jours, les fêtes, etc. Ce sont des œuvres mortes de la loi, décidées quant au moment de les accomplir par l'esprit charnel et la volonté de l'homme. Paul a dit, « L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Romains 3:28. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates 3:10. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Galates 2:16. Paul a du mépris pour les œuvres de la loi, mais on le comprend grossièrement de travers en y incluant toute la loi, y compris les commandements moraux. Aime ton prochain comme toi-même, et ne vole pas, et ne commets pas d'adultère, et ne mens pas, et ne convoite pas, et ne tue pas, et honore ton père et ta mère. Il est évident qu'observer ces commandements n'est pas des œuvres de la loi. Une œuvre n'est pas de ne pas tuer aujourd'hui, ou de ne pas commettre l'adultère ce soir, ou de ne pas mentir cet après-midi, ou d'aimer ton prochain aujourd'hui, ou de prendre une heure pour aimer Dieu, etc. En plus des œuvres de la loi, les œuvres mortes accomplies par la volonté de l'homme, il existe une autre catégorie d'œuvres, les œuvres de la foi, qui sont des œuvres que vous entendez le Christ au-dedans de votre cœur, vous commandez de faire, tandis que vous vous exposez à entendre ses commandements en attendant Dieu, c'est-à-dire en demeurant assis dans un silence humble, à l'écoute de sa voix et attentif à ses révélations. Obéir aux commandements de Dieu que vous l'entendez vous adresser sont des œuvres opérantes de la foi, que Paul a déclarées nécessaires et que Jacques a déclarées indispensables, car la foi sans les œuvres est morte. Ce ne sont pas des œuvres que vous décidez de faire, ce sont des œuvres que Dieu veut que vous fassiez, et quand vous les faites, vous faites sa volonté sur la terre comme au ciel. Ce sont des œuvres de foi accomplies dans une obéissance aimante aux commandements que vous entendez Dieu vous dire du dedans de votre cœur. Ce sont aussi des œuvres de vie, commandées depuis la vie de Dieu, Christ, et les paroles qu'il vous dit communiquent la vie de Dieu. Jean 6:63. Cherchez, attendez, veillez, écoutez, entendez, croyez ce que vous entendez ou ce qui vous est montré, et obéissez, et finalement, vous aurez reçu tant de la vie de Dieu que vous serez nettoyés et purifiés. Alors Dieu vous dirigera vers des œuvres d'amour pour votre joie et pour sa gloire. Jacques a dit, « Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » Jacques 2:24. Paul a dit, « Mais la gloire, l'honneur et la paix sont pour tout homme qui fait le bien. » Romains 2:10. À ceux qui par la persévérance dans les bonnes œuvres recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. Romains 2:7. J'ai proclamé qu'il devait se repentir, se tourner vers Dieu et faire des œuvres dignes de la repentance. Actes 26:20. Ne vous arrêtez pas avant de savoir qu'il vous contrôle totalement, jusqu'à ce que vous vous soyez assis en Jésus-Christ dans le ciel. Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Si vous perdez votre vie charnelle sur la croix, vous sauverez votre vie spirituelle en lui. C'est sa volonté pour vous, et suivre son exemple jusqu'à la mort de la chair produit un bonheur éternel plein de paix, d'amour et de joie. Votre croix n'est rien en comparaison de la sienne, son fardeau pour vous est léger, son joug pour vous est aisé. Rejetez donc tous vos soucis et vos peurs sur Dieu, faites confiance au Dieu merveilleux qui vous a créé pour vous faire son plus grand don lui-même, pourvu que vous le cherchiez et obéissiez à ses commandements. Le retour du Christ, l'entrée dans le royaume et l'achèvement du salut sont simultanés lorsqu'il est révélé au-dedans de vous. Ainsi Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. À ceux qui l'attendent avec persévérance et patience, il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut complet. Hébreux 9:28. Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse d'une génération particulière? Si oui, comment Dieu pourrait-il être si injuste envers toutes les autres générations? Puisque tout œil est censé être témoin de la seconde apparition du Christ, alors, si Christ revient sur la terre dans un corps physique, comment chaque homme pourrait-il voir cet événement physique? Le dicton courant dans la chrétienté aujourd'hui est « continuer à regarder en haut ». Mais pour voir le retour du Christ, vous devez continuer à regarder au-dedans en veillant, en veillant, en veillant. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a manifesté. Romains 1:19. Même le mystère qui a été caché durant des siècles et des générations, mais qui est maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Col 1:26-27, voir aussi Christ in you, la voie de la sainteté. Les voyageurs, même des insensés, ne s'y égareront pas et ne s'y tromperont pas. Ésaïe 35:8-2 guide tout rupice. Si quelque autre voie que porter la croix et mourir à sa propre volonté avait pu racheter l'homme de son état déchu et corrompu, Jésus l'aurait enseigné et l'aurait établi par son exemple. Mais de tous ceux qui désirent le suivre, il a exigé le port de la croix, et sans exception, il a dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi donc craignez-vous de prendre la croix, qui vous conduira sur le chemin qui mène au royaume de Dieu ?» De la croix découlant la douceur céleste, la véritable fermeté, les joies de l'esprit, la victoire sur soi, la perfection de la sainteté. Il n'y a pas de rédemption, pas d'espérance de la continuation de la vie divine en nous, sinon par le fait de prendre la croix à l'égard de nos appétits et inclinations charnelles, car tout consiste dans la mort du moi, et il n'y a pas de moyen d'obtenir la vie et la paix, sinon en mourant ainsi à la corruption. Pourquoi cherchez-vous quelque autre chemin vers la gloire que celui dans lequel vous êtes appelé à suivre le « chef de votre salut » Sa vie fut une croix continuelle, et vous désirez une perpétuité de repos et de joie. Plus vous mourrez parfaitement à vous-même, plus vous commencerez véritablement à vivre pour Dieu, si donc vous voulez jouir ici d'une vraie paix, et obtenir ensuite la couronne de gloire qui ne se flétrit pas, il est nécessaire qu'en tout lieu, et en toutes circonstances, vous portiez la croix volontairement. Souffrir est donc votre part, et souffrir patiemment et volontairement est le grand témoignage de votre amour et de votre fidélité à votre Seigneur. L'endurance patiente de la croix et la mort du moi sur elle sont le devoir indispensable de l'homme déchu, et c'est ainsi seulement qu'il peut être délivré de ses ténèbres, de sa corruption et de sa misère, et être rétabli dans la possession de la vie, de la lumière et de la paix. Vous pouvez mémoriser toute la Bible, mais ce qu'il veut réellement, c'est que vous cherchiez celui dont les Écritures rendent témoignage. La Bible est bonne pour maintenir et accroître l'espérance, mais le salut ne se trouve pas en lisant ou en scrutant les Écritures, comme Christ l'a dit aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jean 5:39-40. La Bible est bonne pour bâtir l'espérance mais pas pour le trouver, lui, vous devez aller à lui. Il a dit, « Venez et apprenez de moi, car je suis doux et humble. » Venir signifie venir à lui, pas lire la Bible, pas aller à une réunion d'une secte déficitaire, pas à une étude biblique à lui. Alors, allez à lui, la parole vivante et l'esprit de vie. Et en allant à lui tout en croyant en son nom avec l'espérance de la pureté, vous avez la puissance de changer. C'est son nom qui est la puissance pour vous mettre en marche. Croire que son nom est la puissance de vous changer, c'est la puissance de l'Évangile, un changement qui s'opère lorsque vous prenez votre croix chaque jour, la croix est la puissance de Dieu, la mort du moi, le renoncement à soi, le repentir de soi, la mort du péché. Nous pouvons rendre témoignage à cette puissance. Quand je aime assez en silence et que je pense au nom de Jésus, je peux sentir la puissance. Nous pouvons tous deux rendre témoignage à la puissance de Dieu qui purifie. Vous ne le ressentirez peut-être pas au début, mais avec le temps vous aussi. Et lorsque vous vous engagez à changer en le cherchant chaque jour pour entendre ses commandements et ses éclaircissements, il faut être silencieux pour entendre sa voix douce, tout en obéissant à ce que vous savez être juste. Vous l'avez fait votre Seigneur, vous serez sur le chemin et sous sa protection tant que vous continuerez à chercher. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Apoc 3:20. Il vous dira des choses au sujet de lui-même, il dissipera vos malentendus, il vous donnera énormément d'encouragement, il pardonnera toujours vos échecs, il vous montrera des choses sur vous-même, il vous montrera de quoi vous repentir. Vous serez ravis d'être en communication avec Dieu, vous serez remplis de reconnaissance et de louange. Votre foi grandira à pas de géant parce que la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu, Jésus lui-même. Vous aurez davantage d'amour pour les autres. Vous êtes sur le chemin étroit qui mène à la vie que peu trouveront. Voyez How to Benefit from the Changing Power of God pour plus. Tiré des lettres de George Fox, 51. Aux amis, au sujet de la croix du Christ, la puissance de Dieu qui conduit hors du monde vers le monde qui est sans fin. La croix s'adresse à la part charnelle, qui est le terrain des images, le terrain des séducteurs, et le terrain du faux prophète et de l'antichrist. La croix s'adresse à ce terrain, à sa racine et à sa vie. Cela, lorsqu'on y prend garde, étant pur et éternel, opère une séparation d'avec tous les autres amours, et conduit à Dieu, et le terrain des mauvaises pensées en vient à être mis à découvert, et la croix s'adresse à ce terrain, cette croix renverse le monde dans le cœur. Cette croix doit être portée par tous ceux qui suivent Jésus-Christ hors du monde qui a une fin, vers le monde qui est sans fin, et toutes les choses mauvaises du monde doivent être reniées. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, mais là où le monde demeure, la croix n'est pas vécue. Mais en demeurant dans la croix à l'égard du monde, ici l'amour de Dieu est répandu dans le cœur, et le chemin est ouvert vers l'héritage qui ne se flétrit pas, où rien d'impur n'entrera. Car Dieu n'est vu que dans la lumière éternelle d'où vient toute sagesse pure. Ce trésor n'est vu qu'avec l'œil spirituel, il n'est reçu que par les cœurs purs, et par ceux qui demeurent et persévèrent dans la lumière éternelle. Mais le cœur charnel peut obtenir les paroles de ceux qui avaient reçu la sagesse, qui demeuraient dans la crainte du Seigneur, mais ceux qui vivent sans la crainte peuvent obtenir leurs paroles, et pourtant ne pas connaître la porte de la sagesse d'où ces paroles sont sorties, ayant la vieille outre. Veillez donc tous et voyez ce que vous possédez. Car tous ceux qui ont donné les saintes Écritures, qui demeuraient dans la crainte de Dieu, possédaient la vie dont ces paroles procédaient, et les secrets du Seigneur étaient avec eux. C'est pourquoi, chacun selon sa mesure, qui vient de Dieu, attendez, afin qu'elle guide vos pensées vers Dieu, et suivez-la, et non vos mauvais désirs, ni les convoitises du monde, car la crainte du Seigneur gardera vos cœurs purs, et la vraie sagesse sera avec vous dans le cœur pur. Et quiconque a cette lumière, dont Christ les a éclairés, les actes mauvais, vous savez qu'ils le sont par la lumière, et cette lumière sera leur condamnation, vous le savez que c'est ainsi. Et tous ceux qui rendent témoignage à cette lumière et l'aiment, leur œil est dans leur tête, qui est Christ fussent-ils 10 000 000. George Fox, lisez la Bible pour l'espérance, les passages d'espérance, comme Jean et les psaumes, et pour garder votre espérance élevée pendant votre recherche, continuez à lire la Bible et les écrits de George Fox. Or, quand vous lirez la Bible, vous ne verrez pas seulement les vieilles phrases citées des faux évangiles, mais ces phrases qui parlent réellement de justice, de perfection, de sainteté, de pureté et d'absence de péché, et vous saurez ce que vous devez faire pour plaire à Dieu. Vous pouvez vous réjouir dans la véritable espérance et dans votre appel. Matthieu définit les exigences, soyez parfaits tendez l'autre joue, aimez vos ennemis, etc. Jean définit la récompense, faites-les un avec nous, je les veux avec moi pour voir ma gloire, rendez-les saints, donnez-leur mon amour, etc. 1 Jean définit l'épreuve, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, quiconque pêche ne l'a ni vu ni connu, etc. Qu'en est-il du larron sur la croix? Beaucoup de gens justifient tous les saluts instantanés sur la base du larron sur la croix, à côté de Jésus lors de sa crucifixion, se réconfortant dans ce que Jésus lui a dit. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien sûr, les circonstances du larron étaient exceptionnelles. Considérez ceci, 1. Il regardait un autre condamné, Jésus, à côté de lui être crucifié. 2. Cet homme, Jésus, qui revendiquait une relation particulière avec Dieu, n'a rien fait pour empêcher sa crucifixion. 3. Le criminel lui-même était dans une agonie inimaginable, à cause de la douleur de sa propre crucifixion. Et pourtant sa foi était assez forte pour réprimander un autre criminel, qui était lui aussi crucifié et lançait des insultes à Jésus, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Mais l'autre criminel le réprimanda en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, puisque tu subis la même condamnation ». Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nos actes méritent, mais cet homme n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Je soutiendrai que la foi de cet homme était si forte, encore active au milieu d'une douleur atroce, encore active en regardant l'homme qui prétendait être le Fils de Dieu être horriblement exécuté, qu'une telle foi, au-delà de ce que je peux prétendre pouvoir montrer de manière comparable, a pu être récompensée parce qu'elle était extraordinaire et exceptionnelle. Le Seigneur peut faire toutes les exceptions qu'il veut. Une partie du jugement consiste à apprendre la vérité. Une partie du fait d'apprendre la vérité consiste à voir le paradis. Comme tous ceux qui ne sont pas purifiés dans cette vie, après le jugement au paradis, le larron devrait probablement quitter le paradis pour un temps, en enfer, avant de pouvoir revenir au paradis pour vivre dans le parvis extérieur, sans mesure, le parvis des incirconcis de cœur, des gentils spirituels. Voir Isaiah Hope for All pour les détails. Et les Écritures suivantes montrent aussi comment les hommes seront jugés au paradis, puis bannis ou rassemblés hors de celui-ci. Mais quand le roi entra pour voir les convives notes, au festin de noces, au paradis, il aperçut un homme qui n'avait pas d'habit de noces. Et il lui dit, « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et l'homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, emportez-le, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Matthieu 22, 11, 13. Note, l'habit de noces est une robe lavée et blanchie dans le sang de l'agneau, Apocalypse 7, 14, 19, 7, 9, Dan 12, 10. Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, 1 Jean 1, 7. Le convive n'avait pas marché dans la lumière comme Jésus est dans la lumière, il n'avait donc pas été nettoyé ni purifié et n'était pas apte à être au ciel ou au paradis. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles ? Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, péché, illégalité ou méchanceté. » Matthieu 7, 21-23. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils recueilleront de son royaume tout ce qui est une occasion de chute, et ceux qui pratiquent le péché ou l'illégalité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 41-43. Note, pas recueillir hors de la terre, mais recueillir hors du royaume, qui est le paradis. Qui est rassemblé hors du paradis et envoyé au feu, ceux qui pêchent encore. Quiconque commet le péché pratique l'illégalité, car le péché est l'illégalité. 1 Jean 3, 4 Si vous péchez encore, vous êtes esclaves du péché. Jean 8, 34 Et Jésus ne peut pas être votre Seigneur. Jésus lui-même a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Luc 16, 13 Se prévaloir de l'exemple surhumain de ce criminel comme base pour entrer dans le royaume de Dieu et échapper à l'enfer parce qu'on croit en Jésus, ne tient pas compte de l'ampleur de la foi du criminel, que presque tous auraient du mal à reproduire, ni du fait qu'une fois jugé au paradis, il a été banni pour un temps. Comme la parole du Seigneur au-dedans me l'a dit, « Si tu avais été avec moi la nuit où j'ai été arrêté, tu n'aurais pas cru que j'étais le Saint d'Israël. » Soutient que le larron n'était pas nettoyé, n'était pas circoncis de cœur, n'était pas sans souillure, et que par conséquent, tandis qu'il a bien vu Jésus dans le parvis extérieur du paradis réservé aux incirconcis spirituels, comme tous ceux qui meurent le voient de même, il fut ensuite envoyé prendre sa part dans l'étang de feu afin de le rendre apte à tenir compagnie au ciel, à vivre et interagir avec tout ce qui s'y trouve, libre de l'avidité, du mensonge, du vol, de l'envie, de l'immoralité sexuelle, de la colère. Après sa part dans l'étang de feu, il retournerait vivre au paradis, mais il serait limité au parvis extérieur, non au parvis intérieur du temple, où ceux qui ont été purifiés sur la terre sont des pierres vivantes dans le temple de Dieu, en union avec Christ, contemplant la gloire et la puissance de Dieu pour toujours comme rois et prêtres. Et il n'entrera en aucune manière en lui le ciel rien de souillé, ni personne qui se livre aux abominations ou aux mensonges, Apoc 21, 8, 27. Et il y aura là une route, un chemin, et on l'appellera le chemin de la sainteté, l'impur n'y passera pas, mais il sera pour les racheter, Ésaïe 35, 8. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta force, ô Sion, revêt tes plus beaux vêtements, ô Jérusalem, ville sainte, car désormais l'incirconcis et l'impur n'entreront plus en toi. Ésaïe 52, 1 Le véritable évangile. Paul a prêché le véritable évangile qu'il a reçu de Jésus, comme il est dit dans Actes 26, 17, 18, Jésus parlant à Paul, « Moi Jésus, je t'envoie maintenant pour leur ouvrir les yeux, pour les tourner des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés, la délivrance de l'esclavage du péché, et un héritage parmi ceux qui sont purifiés par la foi en moi. » Actes 26, 17, 18. Jésus est également rapporté comme promettant que vous pouvez devenir un avec lui et avec Dieu, et que vous pouvez et devez entrer dans le royaume des cieux alors que vous êtes encore sur la terre, voir Jean 14 avec commentaire en note cliqué, puis Jean 17 avec commentaire en note cliqué. Vous a-t-on déjà dit, que vous pouvez et devez entrer dans le royaume alors que vous êtes encore sur la terre, vous a-t-on déjà dit que vous pouvez devenir un avec Dieu et Jésus? Pourtant, ces deux événements font partie de la bonne nouvelle que Jésus est venu prêcher, et ensuite il est mort sur la croix pour nous montrer jusqu'où doit aller l'obéissance requise pour obtenir 1. La liberté de l'esclavage du péché, 2. La pureté, 3. Le royaume des cieux, et 4. Devenir un avec Jésus et avec Dieu. L'Évangile est le ministère de l'Esprit pour vous libérer totalement du péché, tandis que vous vous repentez de vos anciennes voies d'égoïsme sur la croix intérieure du renoncement à soi, pour être lavé, nettoyé et purifié, puis être transporté dans le royaume du Christ, et ensuite vivre en union avec Christ et Dieu, sur la terre et pour toujours. L'Écriture nous dit que l'Évangile est un mystère, le mystère qui a été caché durant des siècles et des générations, mais qui est maintenant révélé à ses saints. Col 1:26 « Et assurément la chrétienté, sans un seul saint à son actif, n'a aucune idée de ce qu'est l'Évangile, ils ne savent même pas que l'Évangile est un mystère. Ils pensent que l'Évangile, c'est Jésus sauf d'aller en enfer par votre croyance qu'il est le Fils de Dieu, ou les livres bibliques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ou la venue imminente unique du royaume, venue imminente et unique qui a pris jusqu'ici 2000 ans. Tiré de la parole du Seigneur au-dedans, l'Évangile est un mystère pour l'homme naturel, il ne peut pas le concevoir. L'Évangile n'est pas un livre à lire, il est à révéler dans ton cœur. Le Évangile est assez radical, il donne le vertige, l'unité avec Christ, c'est cela que j'ai offert gratuitement à quiconque. À moins que je ne te purifie, tu n'auras aucune part avec moi. Jésus n'a jamais dit que l'on pouvait être sauvé si l'on récite la prière du pécheur, ou si l'on est baptisé d'eau, ou si l'on mange du pain et boit du jus de raisin. Ce n'est qu'un rituel païen, la voie large et spacieuse qui mène à la destruction. Les sectes déficitaires d'aujourd'hui, toujours captives du péché et du pouvoir de Satan, croient en un Dieu dont elles présument la faveur accordée en raison de leur rituel païen et de leur forme de piété. Elle nie un Dieu de puissance, qui peut et qui est désireux de nous libérer de l'oppression et de la captivité du péché, afin que nous puissions nous approprier ses promesses, lesquelles exigent notre sainteté et notre pureté. Ces sectes déficitaires ont défini un faux évangile qui promet le ciel à ceux qui continuent de pécher, et un faux Jésus qui, soi-disant, accepte le péché, la désobéissance et le mépris de ses propres commandements. Jésus a dit « Celui qui ne m'aime pas n'observera pas mon enseignement ». Les sectes déficitaires prêchent à tort une autre espérance, en ignorant totalement, en rejetant totalement et en refusant de croire la bonne nouvelle que Jésus a annoncé avoir été envoyé par Dieu proclamé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres en esprit. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, qui pleurent à cause de leur esclavage au péché, annoncer la délivrance aux captifs du péché, et le recouvrement de la vue aux aveugles spirituels, renvoyer libres ceux qui sont opprimés dans l'esclavage du péché, proclamer l'année favorable du Seigneur. Luc 4:18-19 Jésus disant, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est tout proche, très proche, repentez-vous et croyez à l'Évangile de Dieu. » Marc 1:15 Remarquez, le temps du commencement du royaume était alors quand Jésus était vivant. Le Nouveau Testament est rempli de références indiquant que la seconde apparition de Jésus devait avoir lieu alors, et non des milliers d'années plus tard. Dans Matthieu, Marc et Luc, il est rapporté que Jésus a dit que certains de ceux qui se tenaient alors avec lui, il y a 2000 ans, verraient sa venue glorieuse dans les nuées avec le royaume avant de mourir. De plus, Paul, la prédication de Jésus, Jésus dans l'Apocalypse, Pierre, Jacques et Jean, tous ont dit « Bientôt, le temps est proche, encore un peu de temps, il se tient à la porte ». La chrétienté ignore avec désinvolture cette incohérence béante entre ce que la Bible affirme clairement et ce qu'on leur enseigne par leurs guides aveugles. Ce serait un canular cruel d'attendre qu'il apparaisse si, en réalité, les 100 dernières générations de croyants n'avaient aucun espoir de jamais le voir. De la parole du Seigneur au-dedans, 6 attestations prouvent l'existence du règne. La seconde venue est une expérience personnelle. La seconde venue est dans le cœur des croyants purifiés. Le roi est là où il est roi. Paul a aussi écrit dans le livre des Galates, « Mais quand ce serait nous-mêmes, ou un ange du ciel, qui vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit anathème, condamné à une punition éternelle. » Comme nous l'avons déjà dit, je le répète encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Gal 1:8-9 Parce que les prédicateurs et enseignants du christianisme actuel prêchent un évangile entièrement différent du véritable évangile, ils sont maudits éternellement par Paul. L'évangile présenté sur ce site plaide pour la pureté et un état sans péché. L'évangile que vous avez entendu n'excuse-t-il pas le péché, l'immoralité, l'impureté et l'impiété? Quel évangile paraît le plus pieux? Quel évangile ressemble à la voie étroite que peu trouveront, et où beaucoup essaieront mais ne pourront pas entrer par la porte étroite, Matthieu 13-14, Luc 13-23-24. Quel évangile ressemble à la voie large et facile qui mène à la destruction, où beaucoup vont, Matthieu 13, Proverbe 14-12-16-25. Pouvez-vous voir Christ plaider pour le péché, l'imperfection, l'impureté et l'absence de sainteté? Alors quel évangile est le vrai, celui qui promet la liberté du péché, ou celui qui offre la liberté de péché sans culpabilité, mais qui dit qu'il faut emporter son péché dans la tombe, n'est-ce pas faire de la grâce un permis de péché? Jude 1, 4. L'évangile de la liberté de péché, ne vous vole-t-il pas la chance d'une vie bien meilleure sur terre, ainsi qu'après votre mort, ne vous laissez pas dépouiller de la plus grande opportunité de la vie? Si vous avez encore des doutes, lisez Jean 14, Jean 17, et la première section du journal de George Fox, puis réalisez que des milliers des premiers Quakers sont parvenus à la plénitude de Christ, perfection, pureté et absence de péché, sainteté, le Christ ressuscité en eux, et sont entrés dans le royaume tout en étant encore sur terre. C'est possible. Tenez la ligne ainsi, lorsque vous vous êtes saisi de la véritable espérance, le défi consiste à tenir la ligne entre 1. La présomption, j'y suis déjà arrivé, j'ai tout ce qu'il y a à obtenir, ou 2. Le désespoir, je suis tellement rempli de péché que je n'ai plus d'espoir, je n'y arriverai jamais. Concernant la présomption, il y a peu de choses qu'il puisse faire pour vous si vous pensez être déjà juste. Comme Jésus l'a dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Luc 5, 32. Rappelez-vous, quand Jésus a dit cela, il n'y avait pas une seule autre personne dans tout Israël qui fût juste, seulement des hypocrites qui se croyaient justes. Rappelez-vous la prière du pharisien par rapport à celle du publicain, laquelle choisissez-vous? Pour citer le passage de Luc 18, 9, 14. Puis il dit cette parabole à ceux qui se confiaient en eux-mêmes et étaient persuadés d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, fraudeurs, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Mais le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine, disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci redescendit chez lui justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, 9, 14. Les soi-disant chrétiens d'eau de Dieu y pensent être justes parce qu'ils croient en Jésus ou ont été baptisés d'eau. Ce faisant, le christianisme a tourné en dérision le commandement de priorité la plus élevée du Seigneur dans le Nouveau Testament. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu 6, 33. En considérant ceux qui pensent avoir la justice de Christ parce qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, la parole du Seigneur au-dedans a dit, ils brandissent le mot « justice » sans comprendre ce qu'il signifie. Ce sont des rêveurs souillés. Tous sont souillés, parce que leurs cœurs sont souillés par toutes sortes de péchés qu'ils continuent de commettre en méprisant les nombreux avertissements du Seigneur et les exigences, conditions de qualification et exclusion du salut très clair de la Bible. Ils rêvent donc qu'ils sont justes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Qui peut dire qu'il est rassasié tant qu'il n'est pas dans ses bras et qu'il ne l'a pas entendu dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Matthieu 25, 23. Concernant le désespoir, tout d'abord, vous ne pouvez pas vous purifier vous-même, c'est Christ qui enlève le péché. Et personne n'est trop difficile pour lui. Tout ce que vous faites, c'est rester là à chercher, être affligé de ce qu'il vous montre et suivre ses commandements. Ensuite, personne n'est si rempli de péché qu'il ne puisse les réparer. Étant votre Créateur, il vous comprend au-delà même de vous-même. En tant que Créateur, il peut vous façonner comme il lui plaît. Et il lui plaît de vous façonner à son image en supprimant vos problèmes, plus ils sont ôtés, plus grande est sa gloire. Car lorsque vous êtes restaurés, c'est pour sa gloire, et pour la joie de vous deux, et lorsque vous lui rendez gloire, il rend gloire au Père. Et ne croyez jamais, jamais, que vos erreurs en chemin vous disqualifient de poursuivre votre recherche, seule la mort est définitive. Le pardon n'est pas un événement unique. Tant que vous n'êtes pas devenu si pur que vous l'avez regardé en face puis êtes retourné au péché, tant que vous êtes réellement désolé de vos erreurs et que vous lui présentez sincèrement vos excuses, demandant son pardon et lui demandant de vous aider à éviter de refaire les mêmes erreurs, il sera encore là comme votre avocat, ami, aide et source de force pour continuer à chercher. Nous parlons d'expérience. Nos erreurs ont été colossales, mais chaque fois il nous a pardonné et finalement il nous a récompensés par davantage de lui et moins de nous comme preuve. Nous pouvons témoigner que le processus ci-dessus fonctionne, grâce et gloire soient rendues à Jésus-Christ et au Père. Écoutez et obéissez à ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, et marchez entièrement dans les voies que je vous ai commandées, afin que vous soyez heureux. Jer 7:23, non pas ce que quelqu'un lit dans la Bible, mais de la parole vivante, entendre sa voix vous parlant du ciel qui est dans votre cœur. Vous devez garder ces commandements personnels qu'il vous adresse pour qu'ils viennent à vous. Jésus lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles prononcées, les paroles personnelles que vous entendez de ses lèvres, non les paroles de la lettre morte de la Bible et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Lui faisant sa demeure en nous et nous étant à lui, et lui étant notre Dieu, Rev 21:3. Il veut que vous ne vous contentiez pas de l'appeler Seigneur des lèvres, mais que vous le fassiez Seigneur de votre vie, avec son esprit au lieu de votre esprit égoïste de Satan contrôlant chacun de vos mots et chacune de vos actions, afin que vous puissiez dire en vérité qu'il est le Seigneur auquel vous obéissez et que vous suivez, faisant la volonté de votre Père, non la vôtre. Jésus a dit, « Celui qui vaincra triomphera du péché et du diable héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon Fils. » Rev 21:7. Jean nous dit qui croit réellement que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui a vaincu le monde, en combattant le bon combat de la foi, jusqu'à la victoire sur le péché. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, 1 Jean 5, 10, 12. Avoir le Fils, c'est posséder le Fils et le Père dans votre cœur, en mesure suffisante pour être votre véritable Seigneur, maîtrisant vos pensées, vos paroles et vos actes. Règle simple pour commencer au-delà de votre recherche quotidienne en écoutant calmement sa voix, voici des règles de départ qui, si vous les suivez, vous seront bénéfiques. C'était le message simple de repentance de Jean-Baptiste pour se préparer à Jésus et au royaume, repentez-vous, pensez autrement, changez d'avis, regrettant vos péchés et changeant votre conduite. Matt 3:2 Partagez de votre surplus avec ceux qui manquent du nécessaire pour vivre. Soyez honnêtes dans toutes vos affaires, sans jamais exagérer ni chercher à prendre avantage de quiconque. N'opprimez personne et n'effrayez personne, ne mentez pas, ne convoitez pas davantage, ne vous plaignez pas. Luc 3, 10-14 Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le N1 de Jésus réservé au moins une heure chaque jour pour attendre Dieu, de préférence le matin avant que votre journée commence. Par-dessus tout, ne jurez pas N1 de Jacques, au sens des serments, je jure de dire la vérité. Par-dessus tout, ayez entre vous un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. N1 de Pierre, fuyez l'immoralité sexuelle dans Actes 15-28 du Concile des apôtres aux premiers païens. Tout autre péché qu'un homme commet est hors de son corps, mais celui qui commet l'immoralité sexuelle pèche contre son propre corps. 1 Cor 6-18. Quels que soient les commandements que vous recevez en écoutant, notez-les, relisez-les et continuez à vous repentir. Tenez votre temps et l'amour de Dieu envers vous pour précieux. Le N1 de George Fox, ne vous inquiétez pas, il vous aime, n'en doutez pas, de la parole du Seigneur au-dedans, et ne parlez pas de Dieu ou de Christ à moins qu'il ne vous le dise. Attendez que vos paroles viennent de l'Esprit. Profitez des bonnes choses de cette vie avec reconnaissance et louange envers notre grand et merveilleux Dieu. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.